France Inter.
Je fais beaucoup de spectacles où il y a du rire. Et il y a toujours, très profondément, dans la culture française, dans l'institution, qu'il y a quelque chose de moins noble dans l'humour. On sent toujours qu'il y a une petite limite pour être pris au sérieux. Comme si cet exercice-là était moins élevé. Je veux dire, des gens qui travaillent le théâtre, pourquoi ne s'attellent-ils pas plus à la farce, à la comédie? Et en plus, c'est ultra formateur, parce que c'est très compliqué, la comédie, l'humour. C'est juste qu'il y a le verdict du rire. On sait tout de suite si on l'a fait ou pas.
Je suis bien content d'accueillir un artiste qui écrit, met en scène et joue dans ses spectacles qui non seulement font rire, mais racontent aussi notre époque. Certains sont sans parole, seuls le corps, les mimiques, les sons, les objets permettent de tout saisir. Il a obtenu 2 Molières pour Bigre et pour Les Gros patinent bien. Bonjour Pierre Guillois.
Bonjour.
On peut voir ou revoir Bigre en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris, voir ou revoir Les Gros patinent bien à la Pépinière Théâtre et découvrir en tournée Foutu Bergerie qui a pour cadre la campagne. On verra de quelle manière vous êtes sensible à cette noble envie d'un théâtre pour tous, d'un théâtre grand public et comment vous parvenez à inventer et mettre en place ces géniales épopées contemporaines. Votre invitée est une amoureuse des arts de la rue. Bonjour Stéphanie Ruffier.
Bonjour Vincent, bonjour Pierre.
Vous êtes agrégée de lettres, vous enseignez, vous êtes journaliste et spécialiste du spectacle vivant. On vous lit entre autres dans L'Humanité. Bienvenue dans Le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Le Molière de la comédie est attribué au spectacle Bigre.
Bonsoir. Nous avons coécrit Bigre avec Agathe Lullier. Et Olivier Martin Savant, qui s'est pris une porte de WC tout à l'heure. C'est un spectacle sur la catastrophe, que nous avons joué à la fois dans le théâtre public et dans le théâtre privé, et il faut le faire remarquer. Moi, je voulais dire un truc à la ministre, si c'est possible. Et parce que je trouve qu'on devrait faire un théâtre national dédié à la comédie contemporaine. Voilà.
Et le Molière est attribué à... Les Gros patinent bien. Oh.
Get on the border, cheeky labor border. Ain't a minute show watch. I'm a lie. And this regular face the grain breath of fucking mammal by.
Pierre Guillois, on vous entendait ici recevoir le Molière de la meilleure comédie en 2017 pour Bigre et le Molière du théâtre public en 2022 pour Les Gros patinent bien, coécrit, on l'entend comme Bigre d'ailleurs, avec Olivier Martin Salvan qui fait une sorte de discours dans une langue qui n'existe pas comme dans le spectacle Les Gros patinent bien. Dans ces 2 pièces, on rit beaucoup parce que vous inventez des scènes burlesques, des situations où le corps dit tout, exprime tout. Le décor aussi est rempli de centaines d'objets, de cartons parfois, avec quelques mots seulement griffonnés dessus, auxquels s'ajoutent des bruits, des sons, de la musique. Est-ce que vous étiez un petit garçon plein d'imagination ?
Oui, c'est sûr que j'étais un petit garçon plein d'imagination. Je voulais écrire j'écrivais des choses, je faisais des spectacles, j'embêtais tous mes petits camarades en vacances pour faire des spectacles, etc. J'en ai traumatisé certains, dont mon frère. Et oui, donc ça vient de loin.
Vous lisiez quoi, Goscinny, vous lisiez Franquin, Gaston Lagaffe, vous
oui,
qui aimez les dérapages.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Il y avait Goscinny, il y avait Franquin, les cartoons, les Tex Avery, tout ça. C'était évidemment important. Et puis il y a eu très tôt le théâtre parce que mes parents m'ont emmené au théâtre.
Quand avez-vous su, Pierre Guillois, que vous étiez drôle?
Pas si vite. Enfin, il y a des petits moments dans la vie où on se rend compte qu'on est drôle. Mais dans la vie, je suis pas très drôle en fait.
Non.
Mais
on dit souvent ça des comiques.
Oui. Non, mais si par exemple Olivier Martin Salvan, il est très drôle dans la vie. Il est très drôle dans la vie. Il fait rire des tables entières, etc. Moi, c'est pas du tout. Je suis pas capable. Donc, néanmoins, on sent qu'il y a quelque chose sur lequel on arrive à tordre les choses. Moi, de façon un peu plus timide. Et puis après, c'est en faisant du théâtre, en osant en fait tout d'un coup, comme ça, se montrer. C'est très bizarre, on se montre, on monte sur une chaise, et on devient un petit acteur sans rendre compte.
Et vous montez sur une chaise, c'est forcément tomber de la chaise.
Alors oui, voilà.
Ça peut se produire.
Ça peut se produire, et puis comme j'ai été... vraiment un jeune spectateur, grâce à mes parents. J'ai été biberonné au théâtre public où on ne tombait pas beaucoup de la chaise.
Oui. Vous avez fait le tour des institutions, comme on dit. Vous êtes allé voir, je ne sais pas, Chéreau, Bondy.
Pas tellement, parce que j'étais à Rennes.
Vous étiez à Rennes,
donc Chéreau ne venait pas jusqu'à Rennes.
Qu'est-ce qu'on voyait à Rennes alors quand vous étiez?
Il y avait le Centre dramatique de l'Ouest. Et donc, il y avait une troupe, en fait. Hein, donc, il y avait encore cet esprit de troupe. On allait voir des spectacles beaucoup à la Parcheminerie, qui était un tout petit théâtre, dans lequel ils montaient de ce qu'on montait dans la décentralisation, c'est-à-dire les grands classiques, donc classiques contemporains ou modernes. Hein, ça allait de Tchekhov à Beckett, les absurdes, et puis, évidemment, les Shakespeare, les Molières, etc. Donc, on voyait tout ça. Mais c'est vrai que c'était... pas spécialement basé sur la farce et l'humour. Et puis, il y a eu de temps en temps, évidemment, des surgissements. J'ai un grand souvenir du Magic Circus qui était venu avec le Bourgeois Gentilhomme. Ça, c'était en 82, quelque chose comme ça. Mais c'était comme une bulle qui éclatait au milieu de ce paysage théâtral que je
connaissais. Vous avez aimé les spectacles de Jérôme Savary?
J'en ai pas vu beaucoup à part celui-là. Mais en tout cas, celui-là m'a donné l'espoir qu'il y avait une fenêtre comme ça qui s'ouvrait sur comment s'emparer d'un classique, comment faire du théâtre, comment être insolent en fait, surtout.
J'ai revu Bigre, qui est à l'affiche en ce moment à Paris au Théâtre de l'Atelier, pour la troisième fois depuis sa création.
Bravo.
Trois locataires de tout petits appartements vivent leur vie dans cette étroitesse, cette promiscuité. Parfois, ils sont complètement seuls dans leur micro-espace. Parfois, ils se rencontrent. Tout ce qu'ils vivent se passe de mots, mais on comprend absolument tout. Ils sont toujours à deux doigts de la catastrophe, du dérapage. J'ai pensé à Buster Keaton, c'est pas très original, peut-être que c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Au dessin animé, c'est évident, parce que ça fuse dans le théâtre de Pierre Guillois. J'ai l'impression que l'une des clés de votre travail, c'est le rythme.
C'est le rythme. À partir du moment où on enlève la parole, on se retrouve avec des acteurs qui ne peuvent pas parler. Ils ont leur corps. Et ils ont quoi? Ils ont la respiration, la rythmique corporelle pour faire comprendre les choses. C'est-à-dire que... Mais on l'a découvert en le faisant avec Olivier Martin-Salvant et Agathe Lully.
Oui, ce sont vraiment vos camarades. Hein.
Oui, oui, on a vraiment écrit ça au plateau ensemble. Et on s'est rendu compte, on travaillait avec de la vidéo, hein, puisqu'on était obligé de regarder ce qu'on faisait en improvisation. Ça a pris des mois et des mois à s'écrire. Et... là, on a vu que la seule façon de faire comprendre une situation, c'était comment on regardait et comment notre corps allait exprimer des hésitations et des décisions. Donc, c'est des affaires, au final, rythmiques.
Je vais faire parler votre invité dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute, surtout Alain Souchon, on ne le découvre pas, mais il est venu chanter avec ses fils cette semaine à France Inter, au studio 104, avec Pierre Souchon et Ours. Vous retrouvez d'ailleurs ce concert sur le site et l'application Radio France, et voici un titre qui n'a pas été diffusé lors de cette soirée de mercredi. Donc c'est un petit bonus que le Grand Atelier est heureux de vous proposer. C'est « La vie ne vaut rien » par Souchon, le père.
Il a donné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie. Il la vue d'espace qui passe entre la jet set, les fastes, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers des monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouis les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut.
C'est ça.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Merci beaucoup, merci, merci.
Le Grand Atelier aujourd'hui est consacré au, j'allais dire, au plaisir du théâtre.
Oui.
Au burlesque, à l'humour, à la fantaisie, à la comédie, aux arts de la rue aussi. Je voudrais que vous nous présentiez votre invité, Pierre Guillois. Qui est cette femme avec un collier rouge?
Stéphanie Ruffier. Il se trouve que nous habitons la même ville en ce moment, pour moi.
On peut dire la ville?
Besançon.
Besançon.
Et Stéphanie, elle est originaire de Montbéliard. Et on s'est rencontrés grâce à Jacques Lifchine. Jacques Lifchine du Théâtre de l'Unité, qui est un théâtre qui a été très important, un théâtre principalement de rue, mais pas seulement.
Qui est né en 68.
C'est ça, je ne savais même pas.
Ah, c'est dans cet esprit 68 ans.
Tout à fait, tout à fait.
On amène le théâtre aux gens dans la rue.
Tout à fait.
On sort des salles.
Voilà, et avec une pensée assez extraordinaire pour essayer de casser le processus de production qui va empêcher à des tas de gens de venir au théâtre. C'est vraiment l'obsession du Théâtre de l'Unité. Et quand ils ont dirigé avec Hervé Delafont la scène nationale de Montbéliard, ils ont vraiment bouleversé cette scène nationale et cette ville. Et Stéphanie en a été une des bénéficiaires, on va dire.
Alors je rappelle que vous êtes prof de théâtre en lycée et à l'université, que vous écrivez notamment dans l'Humanité, mais pas seulement, dans des revues de théâtre aussi, sur les arts de la rue. Je voudrais savoir comment le théâtre est venu à vous, Stéphanie, et comment vous êtes allée à lui. Parce que vous disiez, en écoutant Souchon, moi je viens d'une famille assez populaire, on n'allait pas au théâtre en famille.
Non, tout à fait. Moi, je viens d'un milieu ouvrier et en partie immigré. Ma famille travaillait en partie dans l'usine Peugeot de Sochaux. Et on avait des pratiques culturelles plutôt liées au cinéma. On avait des tickets du CE Peugeot, on avait le grand spectacle de Noël, on allait à la piscine, mais on n'allait pas du tout au théâtre. Et je pense que si le théâtre n'était pas venu jusqu'à moi, effectivement, je ne sais pas si j'y serais allée. Ça se passe dans une rue à Montbéliard, je suis adolescente, et effectivement, il s'agit du Théâtre de l'Unité qui dirige la scène nationale. Seule fois où une compagnie de théâtre de rue a dirigé une scène nationale, par la suite ont été créées les CNAREP, centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public. Mais donc, à cette époque, il n'y en avait pas encore.
Vous vous souvenez du premier spectacle que vous voyez dans la rue ou ailleurs ?
Tout à fait, je m'en souviens très bien. Je marche dans les rues de la rue piétonne. Moi, j'habite à la campagne. Avec mes amis, on va tous les samedis dans la rue piétonne. On appelle ça faire la rue piétonne. Mmh. On marche, on fait des allers-retours, on a un peu des vêtements.
Vous avez quel âge ?
J'ai, je pense, 17 ans. Oui. On s'est sapé un peu, quoi, pour le dire. Et là, je tombe... dans ma famille, on m'a plutôt appris l'assimilation, la discrétion, bien travailler à l'école. Et là, je tombe sur des gens à poil, colorés.
Et c'était pas Pierre Guillois.
Non. et à l'époque, je me pose des questions de politique culturelle sans le savoir. Je me dis, mais j'ai pas payé. S'il y a une entrée, elle était où ? J'ai pas payé cette entrée. Mais c'est un spectacle et je passe beaucoup de temps à regarder les gens qui regardent. Dans les arts de la rue, on a ce plaisir-là, de cette triangulaire des regards. On peut regarder le spectacle, mais on peut aussi regarder ceux qui regardent. Et ça fait partie du plaisir.
Ouais, ce qui est plus difficile dans une salle.
Complètement. Et là, il y avait des dames qui écartaient leur mari, hein, puisque les gens étaient nus. Il y avait des enfants amusés, il y avait tout un tas de publics qui se demandaient à quoi il assistait. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait de la compagnie Illotopie, un spectacle qui s'appelait Les gens de couleur, qui était programmé donc par la scène nationale. Ça s'appelait Les samedis piétons. Et j'ai eu le bonheur d'avoir l'envie d'aller voir ce qui s'y passait. J'étais assez curieuse et intranquille, hein, comme enfant. On me disait de bien travailler et d'obéir. Mais je travaillais, j'avais les petites médailles de la République. Hein. Par la suite, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour avoir de la reconnaissance, du type Sciences Po, la Sorbonne.
Ah, vous êtes agrégée.
Voilà, exactement. Ce type de médaille qui me permettait d'avoir une certaine liberté.
Et de prendre des chemins de traverse.
Voilà.
Et vous avez pris quel chemin de traverse alors ?
Eh bien, à la scène nationale, on m'a dit « viens ce soir ». Je ne savais pas du tout comment m'habiller. Il faut savoir que passer le seuil d'un théâtre de type à l'italienne, pour quelqu'un d'un milieu populaire, c'est pas évident. Mmh. Et là, j'ai découvert un monde de convivialité. Tout était fait pour que tous et toutes se sentent à l'aise dans ce théâtre. Jacques Lifshin m'a donné accès à sa bibliothèque. J'ai eu la chance de lire un livre de Pialoux, La condition ouvrière, qui m'a montré que je faisais partie d'une classe sociale. Et à partir de là, je n'ai eu de cesse d'avoir envie de rendre hommage, d'être moi aussi passeuse de ce théâtre-là, qui prend en compte tous les publics, qui est vraiment citoyen, qui s'inquiète d'être dans la ville, avec la ville, avec les habitants et les habitantes, de frayer avec eux, de décrire avec eux.
Et vous consacrez à ce théâtre, à cette forme de théâtre, votre vie ?
Exactement. C'est une sorte de manière de gérer mon transfuge de classe, sans doute, de ne pas trahir ma classe sociale. Ah oui. Je me suis déjà dit, parfois.
Ils étaient immigrés de quel pays, vos parents ?
Ma mère est d'origine de Oudinet, sa famille est du Frioul.
D'accord. Pierre Guillois, vous avez fait, vous, du théâtre de rue ? Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas tout nu dans la rue, mais vous l'êtes souvent sur scène. J'étais même surpris de vous voir habillé en studio.
Ah, je suis en slip, à un moment
donné. Dans Bigre, vous avez un pauvre slip blanc.
Un pauvre slip.
Il y a un travail aussi, même sur ça, parce que votre travail, il est dans le détail. Mais est-ce que vous êtes passé par la rue ?
Un petit peu. Et j'en ai fait régulièrement, en fait. Donc, je me considère pas du tout comme quelqu'un de la rue, mais je fais des petites incartades comme ça en rue, parce que, par exemple, Les Gros Patinent Bien, on l'a commencé en rue, en espace public, enfin, je sais pas trop comment dire. Et on essaie d'y revenir d'ailleurs, parce qu'on vit des choses complètement autres avec les publics.
Quoi, par exemple ?
Parce que les publics sont beaucoup plus variés. En fait, c'est tout. Donc, quand on a joué à Gap, dans
socialement
un festival...
Socialement parlant,
culturellement parlant, on a les familles qui débarquent, on a tout le monde qui vient. Si les conditions sont réunies, hein, c'est pas si simple que ça, la rue. Hein. Il faut vraiment qu'à Gap, c'était génial, parce que justement, c'était gratuit depuis 10 ans, donc tout le monde venait. Et voilà, il y avait une grande place, il y avait 1200, 1500 personnes, on sait jamais trop comment compter dans la rue. Et là, on partage très très largement avec des publics très divers qui ne vont pas forcément au théâtre.
Et pourtant, vous allez beaucoup dans les salles, vous travaillez avec les institutions, vous avez été l'assistant à la mise en scène de Jean-Michel Ribes au Rond-Point longtemps, vous avez dirigé le Théâtre du Peuple
Absolument.
De Buisson, avec un gros travail sur le territoire, avec le fait d'amener les lycéens au théâtre, ça vous y tenez, mais vous jouez dans des salles.
Oui, et le pari est de... Alors, c'est un, vous savez, c'est des batailles qui sont un peu perdues d'avance, mais on essaie de faire ce qu'on peut à l'intérieur de ça. Et avec Olivier, on y arrive avec ces spectacles, on y est arrivé un petit peu avec ces spectacles grâce au succès. En fait, tout d'un coup, quand les spectacles ont un succès, comme le Bigre ou les Gros Patinent Bien, eh bien, on arrive à casser quelques barrières parce que les gens en entendent parler. Les gens ramènent d'autres personnes, des amis, de la famille, au spectacle. On voit beaucoup ça avec Bigre, on voit énormément ça aussi avec les Gros Patinent Bien. Et du coup, tout d'un coup, on a... Un public qui s'ouvre parce que tout d'un coup, la notoriété du spectacle dépasse ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que quand on fait une création, souvent, il n'y a que les gens très au courant, très spécialisés, les abonnés, qui vont venir nous voir, qui vont oser tenter l'aventure avec une nouvelle création.
Alors, il s'est passé des choses amusantes quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook du Grand Atelier, votre présence, quand j'ai indiqué votre présence. Il y a ceux qui ont vu les spectacles de Guillois, avec Olivier Martin, Salvan, avec Agathe Lhuillier et d'autres comédiens, parce que vous avez une troupe maintenant qui peut jouer votre répertoire. Alors, cela était enthousiaste, et d'autres disaient « on ne sait pas qui c'est ». Comment vous vivez ça ? C'est vrai que le théâtre n'est pas toujours très médiatisé. Vous avez beaucoup de succès. Vous tournez à Paris, en France, et vous travaillez à Paris, vous tournez en France et à l'étranger. Mais on ne sait pas forcément qui vous êtes. Est-ce que vous vivez ça comme une grande injustice ?
Non, pas du tout, parce que sinon j'avais qu'à travailler ma notoriété d'une autre façon. Donc, à partir du moment où on fait du théâtre, il faut admettre qu'on va s'adresser à peu de gens, proportionnellement à la population. Là où on essaie de se battre avec les théâtres, avec nos partenaires, je parle là plutôt de la province, de la France, c'est d'essayer de faire des grandes séries. Mais c'est très compliqué parce que il y a plein de problèmes qui viennent contrarier ce désir qu'on a, nous, de jouer longtemps dans les villes et du coup de s'adresser à beaucoup plus de gens et de bénéficier du bouche à oreille et du coup de permettre à des gens qui ne sont pas au courant, des gens qui ne vont pas au théâtre, des gens qui, justement, ne nous connaissent pas, de venir. Mais le système de diffusion en France est fait de telle façon que ce n'est pas si simple. Du coup, ça n'aide pas à la notoriété, comme vous dites.
Mais
et c'est
sens,
ça que je regrette. C'est pas un problème de notoriété.
Au sens positif du terme.
Oui, voilà. Non, mais donc c'est ça que je regrette, c'est que...
Donc vous voulez des grandes séries, c'est-à-dire être programmé 3 mois, 2 mois.
Oui, en fait, il y a quelques théâtres qui l'ont fait. Il y a le théâtre de Valenciennes, le directeur Romaric Doré qui avait fait ça. Il y a Arnaud Meunier qui l'a fait à Grenoble. Il y a d'autres théâtres qui l'ont fait, qui ont pris le risque de faire des longues séries, d'ouvrir leur jauge x3, x4 de ce qu'ils font d'habitude. Et là, tout d'un coup, ils ont eu des résultats stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié, leur public par 2 de ce qu'ils avaient l'habitude de faire.
Est-ce que vous avez le sentiment que la liberté est beaucoup plus grande dans la rue que dans les salles ? Parce que quand je vois Pierre Guillois, je me dis qu'il ose tout, Stéphanie Ruffier, et que c'est donc possible aussi d'être un homme ou un artiste libre sur une scène.
Alors, pas exactement. C'est une question qui est très forte dans les arts de la rue, puisque dans les années 80-90, l'âge d'or de la liberté d'expression, oui. Beaucoup de choses se faisaient, notamment parce que c'était un art, à l'époque, plus visuel, qui avait un impact fort plastique, et très peu de texte, comme d'ailleurs les succès de
Pierre Guillois.
Aujourd'hui, Vigipirate est passé par là, et le budget, notamment dans les festivals de la sécurité, a rendu beaucoup de programmateuristes et de maires aussi frileux.
Oui.
On a connu dans les arts de la rue ces grands spectacles chocs avec du sang, de la sueur, de la nudité, du feu. Beaucoup de feu, et puis quelque chose que moi j'appelle quand on arrive en ville. Poussez-vous que je m'y mette, comme Moïse qui arrive et fend la mer rouge en deux, et hop. Ces esthétiques-là aussi, elles sont maintenant un peu datées. On ne fait plus comme ça. À présent, les arts de la rue, pour des raisons aussi de marché, hein, bien entendu, sont prennent plus soin, pour des raisons aussi éthiques. On est dans une société du care. On voit aujourd'hui, dans les arts de la rue, beaucoup de spectacles qui osent le texte, osent des plus petites jauges, de la déambulation.
Avec des thématiques sociétales d'aujourd'hui.
Complètement.
La violence faite aux femmes.
L'inceste, par exemple.
Le réchauffement climatique.
Complètement, oui, oui. Ces sujets-là qui nécessitent un peu plus de corps à corps. Donc ce n'est plus un combat tout feu tout flamme, comme on a pu connaître. Ça existe encore.
Hein, Est-ce que le théâtre n'a pas justement un peu perdu en insouciance? Est-ce qu'il n'est pas plus grave, ce théâtre de la rue?
En insoumission et en subversion, sans doute un peu.
Je voudrais qu'on revienne, si vous le permettez tous les deux, au fondateur du Théâtre de l'Unité. Je voudrais qu'on entende Hervé de Lafont et Jacques Lifshin, quand ils ont créé à Montbéliard, que vous connaissez bien, le Centre d'art et de plaisanterie. On les écoute, c'est une interview de 1991.
Le Centre d'art et de plaisanterie, il est dans nos têtes depuis un petit moment, mais il n'existe réellement que depuis le mois de septembre 91. Ça veut dire qu'on est les directeurs, mais qu'on est un tandem un peu spécial. Jacques, il est metteur en songe, c'est-à-dire que c'est lui qui rêve, qui propose toutes sortes de rêves. Certains sont possibles, certains sont impossibles. Et moi, je suis la grande ordonnatrice, c'est-à-dire que je les rends possibles quand on pense qu'ils sont valables.
On a une manière de diriger complètement par l'atmosphère, par la poésie et pas du tout par des ordres et une grande hiérarchie. C'est ça qu'on veut montrer. C'est aussi une expérience sociale, ce Centre d'art et de plaisanterie. Il nous apparaît que la France est en énorme déficit de rire et d'humour. Or, c'est un phénomène politique. Ça nous paraît très important actuellement, le développement de l'humour, de l'ironie, du rire et de la plaisanterie. Comme contre-pouvoir à tout ce qui, en France et dans le monde, paraît tellement sérieux et fait tellement de bêtises.
Surtout pour Montbéliard, ça nous paraissait très urgent de faire un centre d'art et de plaisanterie. Et pour nous, c'est quelque chose de très sérieux, de très profond. On pense que c'est un devoir chez les artistes de montrer que la plaisanterie, c'est quelque chose de très important qu'il faut réintroduire dans la vie.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie qui est beau, je trouve, ce centre d'art et de plaisanterie. Il y a plus de 30 ans qu'on entend ça, qu'ils ont dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait encore possible de créer des centres d'art et de plaisanterie, Pierre Guillois, ou est-ce qu'on a trouvé d'autres formes, d'autres façons de mettre en valeur le rire?
Le rire est un peu plus rentré quand même dans les scènes nationales, dans les années 2000, grâce quand même, il faut le dire, à Jean-Michel Ribes et son Théâtre du Rond-Point, qui a été un moment très fort, parce qu'il a marié justement un théâtre d'humour avec un théâtre d'auteur, avec voilà. Donc il y a eu vraiment cette chose qui s'est réconciliée un petit peu dans l'institution. Malgré tout, notre théâtre public, il est quand même attiré de façon organique comme ça par quelque chose de justement, il y a des injonctions de sérieux, de sens, de morale aussi, parce que c'est un théâtre qui a été construit par des subventions pour éduquer les gens, pour etc. Donc je pense que on n'y échappera jamais, et du coup à partir du moment où on veut faire rire les gens, il y a toujours quelque chose qui coince, et moi je sais que c'est pour ça que je le fais à l'intérieur de cette institution, que j'ai besoin de faire ça, sinon j'aurais l'impression de ne pas pouvoir vivre à l'intérieur.
On a cherché parmi les chanteurs qui avaient cette faculté de faire rire, d'oser tout, d'être nu par exemple aux Jeux Olympiques. Je me suis dit que Philippe Catherine serait pas mal dans un spectacle de Pierre Guillois.
Ben, ce serait génial.
Si vous nous écoutez,
je connais pas du tout, mais
Monsieur Catherine, oui, je suis certain qu'il serait très bon chez vous. On va l'écouter quand il chantait dans un disque magnifique de 1996, Mes mauvaises fréquentations, Mon cœur balance.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance. entre les deux mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance.
Catherine et ce disque magnifique. Vous disiez, Stéphanie Ruffier, que les JO, ça avait un petit air de théâtre de la rue ou d'art de la rue.
Tout à fait. Sur à la vue de ces artistes dehors, sur les toits, ce fameux cheval qui a quand même marqué les esprits et d'autres images fortes.
Ouais, galopant sur l'eau, sur la Seine.
Je me suis vraiment dit qu'on pouvait faire du populaire exigeant. Qui visait l'excellence et que les arts de la rue n'étaient pas comme parfois on peut en avoir le cliché que des gens qui sont dans la performance sportive. Non, ça pouvait être aussi des messages d'ouverture, de lutter contre la fermeture culturelle, la sclérose du milieu de la culture. Et ces Jeux Olympiques ont donné, pour moi, une belle image de la culture à la française.
Et d'une France mixte, c'est ce qu'il a voulu aussi, Thomas Joly. Et ses camarades, c'est ce qu'ils ont voulu. On va peut-être revenir sur cette notion de théâtre populaire ou pas, parce que je sais que M. Pierre Guillois, ici présent, n'aime pas trop l'adjectif populaire, mais il dit « je préfère l'expression théâtre grand public ». Pourquoi ? Vous avez peur du mot populaire ?
En fait, souvent, on se ment avec ce terme pour plein de raisons différentes. Et j'aime bien les paroles de Guy Benisti, qui est très important pour moi, qui dit « Le théâtre populaire, c'est si le public est populaire ». Sinon, on peut toujours se raconter qu'on fait un spectacle populaire, mais tant qu'on ne l'a pas confronté à un public varié, multiple, en termes socioculturels, on ne sait pas si notre spectacle est populaire.
Donc grand public, ça c'est plus proche de votre réalité ?
Oui, je trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette tentative, avec des spectacles qui marchent, d'étendre le public, de l'élargir, je trouve ça plus juste de parler de grand public, parce que sociologiquement, il y a tellement peu de maîtrise, et il ne faut pas rêver sur la diversité qu'on est capable de ramener dans une salle. Donc je préfère parler de grand public, mais c'est ce qui est déjà pas mal, parce que c'est déjà un combat de se dire, parce que quand même, il y a toute une utopie du théâtre pour tous qui a été un peu abandonné,
et du coup... Ça revient régulièrement.
Oui, ça revient, mais c'est souvent des paroles, mais pour le faire vraiment... pour se dire, par exemple, tiens, si dans une ville, un théâtre essayait d'avoir 8% de sa population qui vient au théâtre, ça voudrait dire, en gros, qu'il faudrait jouer un spectacle un mois ou un mois et demi dans une grande salle. En gros, hein, c'est toujours ça qui se passe. Et en fait, on ne le fait pas.
Mais il y a cette idée aussi que le théâtre, c'est peut-être cher, alors qu'il y a des prix pour les étudiants, par exemple, entre autres, et pas seulement. Et que vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, que ça fait peur de rentrer dans un lieu. C'est comme de rentrer dans un musée. Je me souviens qu'Agnès Varda disait « il faut aller au musée ». Je disais « mais il y a des gens qui ont peur ». Elle disait « mais dites-leur que c'est la vie qui est dans le musée ». Vous diriez quoi, vous, à quelqu'un ? Vous avez des étudiants et des enfants, des lycéens parmi les personnes avec qui vous intervenez, auprès de qui vous intervenez. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur dire « allez ». À la fois voir les arts de la rue, mais aussi Guillois ou un classique à la Comédie Française. Vous avez cet argumentaire-là ?
Alors, dans ma région, j'incite les élèves du milieu rural, par exemple, à se déplacer, tout simplement. Il y a les transports publics qui ne le permettent pas toujours. Et mes arguments, c'est souvent la fête, la convivialité, le corps, parce que les arts de la rue sollicitent davantage le corps, le fait de frayer les uns avec les autres. Toutefois, aujourd'hui, j'insiste surtout sur le fait de se déconnecter et de se reconnecter à soi et aux autres.
Fermez vos portables.
Voilà, c'est l'idée de...
Je vous entends.
Oui, c'est l'idée de retrouver de la présence à soi et aux autres. Moi, je dirais que les arts de la rue ont cette spécificité de pratiquer une sorte de poétique de la rencontre ou de l'échange. Mmh. Ils savent faire ça, ils savent... en fait, le théâtre, sous cette forme-là, c'est avant tout une rencontre.
Oui, et puis une surprise peut-être aussi, on se laisse surprendre,
on se laisse embarquer.
Par l'inattendu.
On peut réagir davantage aussi, hein, tout simplement, on peut rire plus fort, on peut se balader. On est même un peu le metteur en scène final de la proposition, puisqu'on peut se déplacer, on peut quitter, revenir, on peut s'approcher.
Et voir les autres regarder.
Voilà.
Pierre Guillois, j'étais l'autre jour au théâtre à côté d'une petite fille de 8 ans environ, avec son père, et je ne sais pas qui a le plus ri. C'est important de dire, et on en parlait avec David Le Prince qui réalise l'émission, que ses enfants, par exemple, à David, peuvent venir voir les spectacles de Pierre Guillois. Vous écrivez, vous mentionnez à partir de tel âge.
Oui, alors ça, on le fait une fois qu'on a créé le spectacle. Alors pour Big, on avait... moi, je sortais d'un spectacle, j'avais fait opéra porno. Donc là, on avait dit interdit au moins, enfin autorisé au plus de 18 ans, parce que vraiment, c'était pas possible, c'était tellement dégueulasse ce que j'avais écrit. Ouais. Et très drôle, mais dégueulasse, enfin très drôle selon moi, dégueulasse, que là vraiment, j'avais pas du tout, on avait pas du tout envie de retravailler là-dessus.
Et pour moi, Bigre et les gros patinent bien, à partir de 8-10 ans, c'est bon.
Absolument. Et en fait, comme il n'y a pas de parole, ça réconcilie tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Tout le monde peut regarder, peut entendre. Évidemment, les interprétations sont différentes. Mais ça met vraiment, et que ce soit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, etc. Donc on a vraiment des familles, parfois très très larges, jusqu'aux grands-parents qui viennent. Et c'est vrai que c'est très réjouissant de voir ces publics rassemblés.
Alors ça demande sans doute du boulot de trouver des acteurs capables d'être à la fois mime, clown et comédien. Je pense à l'une de vos actrices, vous l'avez citée tout à l'heure, elle fait partie de votre compagnie depuis longtemps, elle est dans beaucoup de vos spectacles, c'est Agathe L'Huillier. Elle témoigne et on sent qu'elle a dû s'adapter à votre esprit et à votre théâtre.
Au lieu de mettre notre énergie dans les mots, on la met dans notre corps. Et puis bien sûr, il y a beaucoup d'accessoires. On a beaucoup d'éléments en main. On n'est pas, comme vous voyez, c'est pas vide. L'espace n'est pas nu. Donc ça raconte aussi des choses. Tous nos déplacements sont réglés. Et on ne peut pas improviser, on ne peut pas se faire des surprises. Par exemple, parfois, quand on joue, on dit « Ah bah ce soir, je vais essayer comme ci ou comme ça ». On compte même dans ce qu'on fait. On compte les secondes par moment. Moi, j'ai été formée au Conservatoire National d'Art Dramatique où j'ai appris à dire Tchekhov, Feydeau, Molière. Bon, pas du tout, c'est pas du tout. Je suis arrivée là, j'ai fait, bon, alors, comment on fait?
Pierre Guillois, quelles sont les qualités requises pour jouer chez vous et avec vous, pour jouer votre répertoire?
Bien, par exemple, Agathe Lully, on ne voulait surtout pas des gens du corps. On ne voulait surtout pas des gens spécialistes du corps. Parce qu'en fait, c'est une autre façon de travailler, ce qui est très bien. Il y a des gens qui donc vont composer des personnages, vont passer par le corps. Mais nous, on voulait des acteurs de texte à qui on enlève le texte. Ce n'est pas pareil. Et du coup, ils sont obligés de produire autre chose, un imaginaire, de développer une discipline. Donc, on a tous appris ça ensemble en faisant Bigre. Donc, il n'y a pas de qualité requise, sinon d'être un excellent interprète, une excellente interprète.
Il faut improviser un peu où tout est écrit par Pierre Guillois.
Déjà, c'est rarement par Pierre Guillois tout seul.
Oui, souvent voilà, avec Olivier Martin Salvant.
Voilà, et en fait, non, dans la création, on n'est passé que par l'improvisation. Donc voilà, donc on a passé des mois à improviser et écrire petit à petit.
Tous les deux.
Voilà, tous les trois avec Agathe.
Avec Agathe
vraiment,
aussi.
Oui,
Agathe
on a vraiment écrit tous les trois. Et pour Les Gros Patinent Bien, avec Olivier, on a fait ça tous les deux. On a découpé des cartons pendant des semaines.
Ah oui, parce qu'il y a des centaines de cartons.
Voilà, et après on s'est fait beaucoup aider. Mais au départ, on a vraiment écrit en découpant des cartons. On a écrit comme ça.
Stéphanie Ruffier, comment vous regardez le théâtre? J'imagine que vous avez vu des pièces de Pierre Guillois. Comment vous en parleriez, vous?
Alors effectivement, je les ai vues, les pièces dont nous parlons. Moi, ce qui m'a toujours étonnée dans le théâtre de Pierre, c'est effectivement les grommelots. Cette façon de parler est très singulière. J'ai vu dans le petit résumé que vous avez posté que vous disiez tout sans vulgarité.
Je trouve. sans trivialité.
Oui, moi je trouve qu'il ose quand même pas mal de choses.
Ah il y a des histoires de caca pipi.
Voilà.
On est souvent sur des toilettes avec notre ventre qui fait du bruit.
Exactement.
Et là, le père et la fille riaient beaucoup ensemble.
Mais il y a des niveaux de lecture. Quand on regarde dans le détail,
on sent l'universitaire.
On a quand même une peinture assez juste des oppressions
et sombre de la société.
Une mise en abîme du travail, justement, j'y suis sensible, du travail de manœuvre, de technicien. On a quelque chose qui a à voir avec une solitude existentielle, le consumérisme. Donc on rit énormément, mais aussi on réfléchit, on soulève l'épiderme du rire.
Oui, ça m'a beaucoup frappé en revoyant pour la troisième fois Bigre, le type qui insiste sur le fait libre de... C'est pas ça, c'est que peut-être que j'ai vu des choses différentes. Et effectivement, l'aspect social m'a sauté aux yeux cette fois-ci. Leur façon de vivre comme ils peuvent, dans, je sais pas, 2-3 mètres carrés, ça parle de la pauvreté, de la promiscuité. Pierre Guillois, vous tenez aussi à ce discours-là, sans faire pleurer dans les chaumières. La preuve, on rit. Mais...
Oui, absolument, sans faire pleurer. Et d'ailleurs, je pense qu'en effet, c'est plus existentiel que social. Il y a cette petite part sociale, mais on n'entre pas dans le détail social.
Mais on est spectateur de ça.
Voilà, on est spectateur de ça, mais il y a quelque chose d'existentiel dans le sens, c'est, on voit que ce sont des vies qui sont étroites. On voit, mais parce que je pense que ça parle à tout le monde, et je pense que c'est pour ça que ce spectacle a du succès. Parce qu'on peut se reconnaître dans le côté trop étroit qu'on peut trouver dans nos vies. C'est-à-dire que moi, je suis obsédé par le fait que de faire des personnages qui n'ont pas le droit à un destin tragique, qui n'ont pas le droit à un grand destin. Mais en fait, c'est notre condition à tous et à toutes. C'est-à-dire qu'on est là, on voudrait vivre des grandes choses, on a des grands rêves, et puis nos vies, elles sont, il y a des murs, il y a des choses contre lesquelles on se prend des portes, etc., des tapis dans lesquels on se prend, etc. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse particulièrement.
Mais ce personnage qui chante dans une langue qui n'existe pas, j'ai encore rêvé d'elle, une sorte de japonais scandinave. Nabo, je ne sais pas quoi, il est devant sa télé tout seul, dans une petite pièce toute blanche, minimaliste à souhait. On n'a pas du tout envie de vivre sa vie. Et en fait, il est d'une solitude absolue.
Absolument, absolument.
Il a trouvé que ça pour s'animer un peu.
Voilà, voilà. Et on le voit en plus au milieu de toutes ces névroses, de tous ces tocs. Et il a ce chant. Et en plus, Olivier et l'autre acteur qui joue, Jonathan Pinto-Rocha, chantent en plus très bien. Et du coup, c'est très beau et déchirant, en fait.
Je voudrais qu'on écoute votre autre camarade, parce que c'est important de signaler les camarades. Olivier Martin Salvan, on l'a déjà pas mal cité avec Agathe Lullier, mais on va l'écouter parler. C'est lui qui, au départ, a inventé ce scandinavo-anglais. Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous. C'est quelqu'un qui est tout rond, Olivier Martin Salvan. Donc déjà, quand il arrive sur scène, comme ça, il joue de ses rondeurs et c'est drôle. Et vous êtes musclé mince et vous jouez aussi de votre longue silhouette.
Surtout mince.
Et le duo fait des étincelles. Voici Martin Salvan, Olivier de son prénom, en 2021.
J'ai toujours adoré m'amuser à faire la langue un peu américaine. Je regarde beaucoup des choses sur le câble où ce sont des gros Texans qui construisent des grosses maisons et ils font et ça m'a toujours fait beaucoup rire de me dire que c'est comme des gros chats comme ça. Et j'ai toujours raconté ça à Pierre, un peu comme des rêves d'acteurs. On a toujours des rêves qu'on veut réaliser grâce au théâtre. Et puis avec Pierre, on veut vraiment aussi développer ce concept un peu d'un Laurel et Hardy contemporain. Cette patate et l'asperge, je trouve que c'est toujours intéressant de travailler sur la monstruosité curiosité de nos différences physiques.
Ring all the time, matter, he'll let her go. Sing all the time, matter, all or cheaper. Hey, no time, matter.
Le carton que tout le monde connaît, on vit vraiment avec. En plus, nos cartons, ils ont des marques de fragile ou des marques de raclure où ils sont un peu cassés parce qu'ils ont une autre vie avant nous. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, le spectateur, souvent, nous raconte beaucoup d'histoires sur ce qu'il a vu. En fait, il voit des couleurs, il voit des volumes, il voit des paysages. Et nous, en fait, on est un peu des déclencheurs d'imaginaire. On repart un peu dans l'enfance.
On aura fait toute l'émission là-dessus, en fait, sur le parler inventé par merveilleux Martin Salvan. Il disait « déclencher l'imaginaire ». Stéphanie Ruffier, c'est aussi ce que vous voyez quand vous avez 17 ans en mini-jupe, avec du rouge à lèvres à Montbéliard, et que vous voyez pour la première fois un spectacle de rue.
Oui, oui, oui. Ça déclenche complètement l'imaginaire. On se dit un peu à la manière des situationnistes, on peut faire dérailler le réel. Mmh. Il y a d'autres voies possibles. On n'est pas obligé de sans cesse obéir. Et c'est pareil avec ces cartons. C'est aussi le mot imaginaire qui m'a marqué dans cette interview. En fait, le carton, comme vous l'utilisez, c'est à la fois le signifiant, le signifié, un décor, de l'art brut, un objet pauvre. On a l'impression qu'on peut déployer un monde à partir de ce qui est là. Et en fait, c'est peut-être cette façon-là qu'on aurait de se libérer du réel.
Pierre Guillois, une réponse rapide, parce qu'après je dois lancer un disque.
Ben, moi ce que j'adore dans cette façon de prendre ce matériau, qui est en effet pauvre, qui est commun, que tout le monde connaît, c'est qu'on part de rien, et c'est là où on se met à un niveau d'égalité avec le spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a que notre imagination, et c'est l'imagination qui produit le luxe, qui produit l'imaginaire, et qui produit de la richesse. Et c'est que ça.
On parlait de vulgarité, le WC par exemple, un objet que nous connaissons tous, et ça aussi c'est pour ça qu'il est souvent là.
Oui, il est souvent là, enfin moi je trouve ça très important, dans le théâtre, de mêler des choses métaphysiques, de la poésie, voilà. Et les choses les plus triviales possibles.
On écoute Holly Cook, la Britannique dont le père est le batteur des Sex Pistols, mais elle est surtout chanteuse et musicienne de reggae.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Pour la professeur, ça va être facile de donner un conseil culturel dans le grand atelier Stéphanie Ruffier, mais je vais d'abord me tourner vers Pierre Guillois qui n'enseigne pas, mais qui a beaucoup travaillé aussi avec des lycéens, donc à l'habitude de la pédagogie. Et la radio, ce n'est rien d'autre qu'une forme de pédagogie, monsieur Guillois.
Mais oui.
Vous avez 4 heures. Vous avez vu un spectacle qui était à l'atelier il y a quelques mois.
Voilà.
Il ne m'est jamais rien arrivé. C'est du théâtre par Vincent de Dienne. C'est l'adaptation du journal de l'auteur de théâtre, le dramaturge mort du sida dans les années 90, Jean-Luc Lagarce. Et de son journal, il fait un spectacle.
Voilà, c'est des morceaux choisis que Vincent de Dienne a choisi.
Et oui, parce que c'est 2 tomes, hein, le journal de Lagarce.
Oui, c'est ça. Donc, et là, c'est un spectacle d'une heure.
Une heure.
Voilà, et c'est vraiment... Ben, moi, je ne connais pas le journal de Lagarce, je ne l'ai jamais lu, j'avoue. Mais en tout cas, j'ai trouvé ces morceaux choisis vraiment extraordinaires. Et la façon de se positionner de Vincent de Dienne, très juste, la bonne distance pour à la fois incarner et laisser la place à l'auteur. Et je trouve Lagarce, là, qu'on entend particulièrement spirituel et drôle, parce qu'on n'a quand même pas forcément cette vision-là dans ses pièces, hein, qui ne sont pas très drôles, alors qu'il paraît que c'était quelqu'un de très drôle, moi je ne l'ai pas connu, et là, dans le journal, il est très drôle, c'est brillant, évidemment c'est très émouvant, c'est très beau, oui, mise en scène par Joan Hibert.
On suit aussi sa maladie, et sa relation à la maladie.
Voilà, il raconte ça, mais pas que le rapport à l'art,
aux
parents, le théâtre, Besançon, puisqu'il vient de Besançon, tout ça c'est une histoire byzantine. Très beau spectacle, et comme ça va être complet, je trouve ça bien de le dire maintenant pour que les gens puissent réserver.
Il est en tournée, ce spectacle, il ne m'est jamais rien arrivé. Il reviendra en février prochain au théâtre de l'Atelier à Paris, où se joue encore Bigre avant de repartir encore sur les routes.
Oui, il repartira, mais la saison prochaine.
La saison prochaine, vous en avez.
Si, on va à Londres fin janvier, au Mime Festival.
Et là, on réécoute Olivier Martin-Salvan qui fait semblant de parler comme un cow-boy. Stéphanie Ruffier, est-ce que vous nous emmenez au théâtre? Est-ce que vous nous dites de lire un bouquin, d'aller au cinéma? Qu'est-ce que vous choisissez comme conseil, vous?
Les deux.
Les deux.
Je vous propose de lire « Nom d'un animal », qui est un recueil de poésie en partie documentaire d'Antoine Mouton. Un auteur qui est nouvellement arrivé dans les arts de la rue et qui nous fait beaucoup de bien, avec une sensibilité forte. Et ces textes ont été adaptés par la compagnie Jeanne Simone en une proposition chorégraphique dans l'espace public. Et ça questionne le travail, ce que le travail fait à nos corps. Les mots du travail, M-O-T-S, par exemple... Le revenu, qu'est-ce qu'un revenu? C'est parce qu'on y revient au travail. Et d'autres mots comme ça qui sont travaillés, malaxés, comme les corps sont malaxés, avec de la radio. Il y a de la radio dans beaucoup de... Une très belle création radiophonique dans ce spectacle. Et ça donne une image des arts de la rue plus complexe que celle que parfois ont notamment les universitaires, mais aussi les gens du théâtre en salle.
Nom d'un animal, du poète Antoine Mouton.
Le spectacle s'appelle Animal-Travail.
Animal-Travail, ça vous est revenu. Moi, mon conseil, c'est le nouveau spectacle de Vincent, non pas de Dienne, mais de Vincent de Lerme. Un spectacle, en fait, pas simplement un concert. Le musicien sur les routes, avec justement le concert de son disque fresque, un disque particulièrement autobiographique qui ressuscite ses fantômes et raconte celles et ceux qui l'entourent depuis sa naissance. Il est très bon de Lerme, il excelle dans l'évocation des moments passés, puissants ou anodins, le souvenir d'une maison de voisins qui brûle, le regret de son visage bronzé l'été que les filles de sa classe n'ont pas pu voir, l'amitié fidèle pour sa professeure de piano dont il projette les retrouvailles sur un écran, parce qu'il y a ici beaucoup de projections de films, de photos sur 3 écrans, un jeu permanent et techniquement remarquable entre Delerme qui chante au piano et des images en couleur et en noir et blanc. Chansons, récits, l'équilibre et le rythme sont parfaits entre émotion et rire. Seul Delerme, je crois, sait raconter ses performances d'adolescent au ping-pong, en mots et en images, avec une autodérision totale. Il a peut-être vu aussi des spectacles de Guillois. C'est vraiment son univers, la scène, je dirais même le music-hall, lieu de sa réalisation depuis plus de 20 ans. Je ne vous dis pas la surprise que vous aurez en entendant un chanteur illustre des années 80 que l'auteur de Vivarda et des filles de 73 a convaincu de participer à la fête. Vincent Delerme, encore une fois, est sur les routes. Demain, il est à l'Opéra de Reims. Il reviendra plus tard à La Cigale, à Paris. Je voudrais encore poser une question, tiens, à Stéphanie Ruffier. Pourquoi, en voyant des arts de la rue, du théâtre de rue, vous n'avez pas eu envie d'être comédienne ou metteuse en scène?
C'est une question qu'on m'a souvent posée. Mm-hmm. Et récemment, quelqu'un qui m'embauche à l'université à Paris me disait « Pourquoi n'écrirais-tu pas des monologues ou au moins des plongées très personnelles dans mes expériences de théâtre de rue ?»
Mais oui, vous en parlez bien et ça donne envie.
Oui, et ben, j'ai envie de le faire et il se prépare sans doute un grand voyage qui me permettrait de me mettre dans cette peau-là que je n'ai pas encore expérimentée.
On a tous envie d'écrire et d'être acteur, vous croyez, Pierre Guillois ?
Ah non ! Non, non,
surtout pas.
Mon Dieu, non.
Vous avez envie de revenir, vous, à un théâtre d'écriture, un théâtre d'auteur au sens où on écrit des dialogues, hein, des monologues. Ou est-ce que le sans-parole, comme Tati l'a expérimenté dans son personnage de Monsieur Hulot, va continuer longtemps ?
Non, je fais les deux régulièrement. Là, donc, je viens d'écrire un spectacle et de le monter qui s'appelle Foutu Bergerie.
Ah oui, il est en tournée.
Il est en tournée, il sera au rond-point en mars, à Paris. Et c'est un spectacle que j'ai écrit.
Avec Christiane Areali, entre
autres. Avec Christiane Areali et six autres acteurs et actrices.
Donc tout est possible pour Pierre Guillois et pour les spectateurs.
Ouais.
C'est au théâtre de l'Atelier, c'est au théâtre La Pépinière, à Paris. L'autre, les gros patineurs.
Les gros patineurs à la Pépinière.
Et à la Pépinière, oui, et en tournée, vous avez dit le titre Foutu Bergerie. David Leprince a réalisé cette émission. Merci Stéphanie Ruffier. Préparée avec Marion Guilbeault et Alexandra Connet aux archives, Valentine Chédebois a programmé la musique et aujourd'hui à la technique, c'était Julien Thévenot. Samedi, la balade du rappeur Giorgio sur France Inter et dimanche prochain à cette même table et chez vous à 17h sur Inter, la dessinatrice Coco dans le grand atelier. Après le journal, c'est Payette, Studio Payette.